France Inter, franceinter.com. Interception.
Bonjour, nous partons ce matin pour la Polynésie française. C'était il y a 10 ans, dans la nuit du 15 au 16 décembre 1997, le journaliste Jean-Pascal Courault disparaissait dans des conditions assez mystérieuses. Jean-Pascal Courault, tout le monde le connaissait à Papété sous le nom de JPK. Il avait été rédacteur en chef des Nouvelles de Tahiti, mais ses multiples révélations sur les affaires politico-financières l'avaient ensuite amené à s'engager politiquement contre Gaston Flosse, l'homme fort de la Polynésie. Longtemps, sa famille a cru à un suicide. Il avait des problèmes de couple, il aurait absorbé des médicaments, enfilé ses palmes et nagé jusqu'à épuisement. Mais depuis 3 ans, de multiples témoignages contredisent cette version. Selon ses proches, Jean-Pascal était surveillé par des membres du GIP, une cellule de renseignement mise en place par Gaston Flosse, et il en savait trop. En 2004, la famille du journaliste dépose donc une plainte pour assassinat. Pour Interception, Benoît Colomba a rencontré les principaux acteurs de cette affaire. L'un d'eux, l'avocat de JPK, parle aujourd'hui pour la première fois des dossiers sensibles que détenait son client. Des dossiers qui évoquent notamment les liens très forts qui unissent Gaston Flosse et Jacques Chirac. Ces bons rapports, on le sait, ont permis à ce petit coin de paradis de bénéficier de larges subventions de la part de l'État français, soucieux de faire oublier les essais nucléaires menés à Mururoa. Voici Interception, des requins en eau trouble.
Interception, le magazine de la rédaction.
On arrive au port. Hein.
Oui, oui, je vous ai pas fait passer par la voie la plus directe, mais enfin bon, continuez. Hein. Voilà, le GIP, c'est juste en face.
Hein. Alors là, de là, on est sur le port de Papeete, devant le bâtiment de la flottille administrative, qui est le QG du GIP.
Continuez.
Et les fameux gros bras de Flosse, une sorte de milice, on peut dire.
Il y avait donc deux ou trois équipes d'une quinzaine de gars qui étaient chargés des gros coups, y compris entre eux. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui témoignent, ça te fait passer à tabac au sein même du GIP. Hein. Bon, il faut savoir aussi que, et Puputoki s'en cachait pas, hein, que
et Puputoki, c'est le patron du GIP à l'époque. Hein.
C'est le patron du GIP. Donc il ne s'en cachait pas, il avait une grande partie de ses recrues à la sortie de prison. Hein. C'était des anciens taulards, des gars bon, qui avaient puré leur peine. Hein. Ils étaient... Mais c'était quand même...
recrutés parmi les repris de justice.
Voilà. Hein. Et il y avait d'ailleurs des allers-retours entre la prison et le GIP. L'élément le plus fort, c'est que c'est le GIP lui-même qui est à l'origine en fait de tout ça. De tout ce qu'on sait, c'est eux qui ont parlé.
Les témoignages.
Qui ont parlé à leurs proches, qui ont parlé à leur famille, parce que bon, c'est quelque chose qui est tellement horrible, parce que là, c'était assez horrible, hein, quand on connaît les détails qui ont été racontés, etc. Ils se sont confiés. Puis après, comme c'était des gens qui. C'était un mode de fonctionnement, ça nous a été dit au sein du GIP, c'est-à-dire que c'était fréquemment. Si tu continues, tu vas finir comme le Frani, avec des parpaings aux pieds.
Le voilà. JPK, hein, voilà. Ça veut dire
le français. Hein, tu vas finir comme lui, avec des parpaings aux pieds.
Bonjour.
Voilà. Benoît Colomba.
Entrez, je vous en prie.
Merci.
Vous êtes les bienvenus, déjà, je veux vous dire.
Merci.
Alors, je suis toute seule pour le moment.
comme ça, ça me laisse un voilà, moment pour bavarder tranquillement.
Exactement.
S'il y a un peu de désordre, vous êtes indulgent.
Là, il y a du désordre volontaire, parce que Philippe m'a dit que vous souhaitiez avoir quelques photos.
Oui, si c'est
donc,
possible.
Donc, hier, j'ai sorti tout ce que je pouvais comme album.
C'est l'album de photos familiales.
Familial, oui. Alors, bon, vous y verrez plein de petits-enfants. Plus il y en avait, plus on en prenait, bien sûr.
Et vous êtes la mère de JPK.
Je suis la mère de JPK et de tous les enfants qu'on a. Et les voilà ici, tous les quatre à Montréal.
Ah, ça, c'est les trois frères et la sœur.
Et la sœur, voilà.
Donc, on voit
Philippe, Jean-Pascal, Olivier et Sylvie. Jean-Pascal était probablement celui avec qui j'avais le plus d'atomes crochus.
Ah oui ?
Oui. Il était fonceur, il avait quelque chose qui me plaisait. Il y avait la résolution. On n'est pas dans la vie pour se résigner, on est dans la vie pour se battre. Ce que j'ai toujours dit. Il a toujours eu ça. Enfin, j'ai essayé en tout cas de le leur inculquer à tous. Pour mon malheur, peut-être, mais enfin, c'est comme ça. Hein. Je n'aurais pas pu faire autrement. Je voulais que. Qu'ils aient une conduite noble. Je pense que. Ils savaient, quand. Enfin, je vais prononcer le nom de Gaston Flosse, hein, quand il faisait quelque chose, ce que ça allait amener.
Le combat de sa vie, le combat de JPK, c'était un combat résolument anti-Flosse.
C'était un combat résolument anti-corruption, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne. Il ne supportait pas la malhonnêteté, il ne supportait pas ça, c'était pas possible. J'ai le souvenir d'une juge venant ici pour aller sur les lieux de Erima, voir un peu les travaux qu'avait fait Gaston Flosse dans sa propriété.
Erima, c'est un endroit...
Erima, c'est à Harway. Et ce jour-là, donc, il était allé avec les juges et les avocats, Gaston Flosse, et il avait apporté un plan de sa propriété. Et sur le plan de sa propriété, il avait tronqué la partie litigieuse. Il n'en avait donné qu'un bout.
Flosse ?
Oui. Quand Jean-Pascal l'a su, il est devenu fou. Lui, il avait le plan entier. Ah, il a dit non, ça ne se passera pas comme ça. Donc il a littéralement fait l'assaut de la juge qui était venue, et il a réussi à se faire recevoir entre deux portes, avec le vrai plan. La juge était furieuse, elle a dit, c'est comme ça, on y retourne.
Grâce à JPK.
Oui. Oui, la plupart des affaires que Gaston Flosse a eues aux fesses, qui l'ont amené au tribunal, je pense que c'était Jean-Pascal qui les a sorties. Il a parfois même pris la liberté de porter plainte personnellement.
Contre Flosse.
Contre Flosse, oui. Mais Jean-Pascal fonçait. Là, ça, je peux vous dire, plus il sentait les chiens après lui, plus il fonçait. Est-ce que vous voulez qu'on termine avec les photos?
On reviendra les photos après.
D'accord.
Si vous voulez, on peut aller dehors.
On va aller sur le Phare et Ponton, on sera bien parce qu'il fait frais.
Là, on est dans votre jardin.
On est dans le jardin, oui.
Avec l'océan en face de nous.
Oui.
À la demande de JPK, sa mère avait mis à l'abri dans son grenier des dossiers que son fils souhaitait protéger. Des dossiers rangés dans une malle cadenassée. 2 mois après la disparition de JPK, sa mère est stupéfaite en revenant de faire ses courses.
Ma femme de ménage me dit, il en est arrivé une bien bonne. Je dis, qu'est-ce qui est arrivé? Elle me dit, j'ai vu un homme, un Tahitien, qui descendait les marches de l'étage à 10h du matin. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle me dit, qu'est-ce qu'il avait dans la main? Elle me dit, il n'avait rien dans la main, mais il cachait des papiers sous son t-shirt. Je suis montée au grenier, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien et pas de désordre. Celui qui est allé les chercher savait où c'était. Et là, j'ai dit, les papiers, c'était ça, bon sang.
Donc, c'était les dossiers de JPK qu'on avait cambriolés.
Voilà, c'est pas compliqué, ça. Hein. Et ça, je l'ai dit aux gendarmes. Ils ont interrogé. Mais ces gendarmes-là, il y a 2 façons d'interroger les gens. Je le sais si bien, moi, pour avoir été prof, je sais bien comment on peut faire parler un élève et le faire taire. Eh bien, ils interrogent non pas pour faire parler, mais pour faire taire. Mon jugement sur la justice, c'est qu'ici, elle n'existe pas. Et que telle qu'elle s'exerce, ou plus exactement qu'elle ne s'exerce pas à Tahiti, elle fait la honte de la France.
Je m'appelle Olivier Courreau, petit frère de Jean-Pascal.
Olivier Courreau, vous avez été le témoin direct d'un épisode très important du dossier JPK. Un jour, un ancien membre de la flottille administrative, qui ensuite... est devenu le GIP, donc les gros bras de Gaston Flosse, quelqu'un vient vous voir pour vous apporter son témoignage.
Que vous dit cette personne ?
Alors, cette personne-là est venue librement, d'abord, se confier à moi. Il est venu me dire donc un après-midi, se balader en voiture avec un de ses collègues. À l'époque, il était donc employé dans cette cellule-là. Et il a entendu à la radio un ordre qui disait il faut enlever le conducteur de la Suzuki grise, immatriculée, je ne sais plus quoi. Et donc, alerté par ça, il est allé sur les lieux de l'enlèvement. Alors pourquoi ? Parce que
l'enlèvement, à ce moment-là, il ne sait pas encore qu'il va y avoir un enlèvement de JPK, mais il se rend sur les lieux.
Il s'en doutait, et il le connaissait bien, Jean-Pascal.
C'était son voisin,
sa femme avait été la nounou d'un de ses enfants, donc il se connaissait bien. Donc il se rend sur les lieux, il assiste de loin à cet enlèvement, musclé.
De JPK.
Musclé. Homme et dossier. Donc embarqué dans une fourgonnette et se dirigeant donc vers la flottille administrative de l'époque qui se situe à Farioute. Donc de là, lui se cache avec son copain. Jean-Pascal est amené dans un bureau encadré de 4 hommes. Il se fait donc interroger dans un bureau par un des chefs, ou même le chef de l'époque de la flottille administrative. Voyant ça, il se cache derrière le bâtiment, il monte à une échelle et il voit donc toute la scène. Scène qu'il filme.
Il filme la scène. Il a une caméra avec lui.
Ils avaient tous une caméra. Je pense qu'à l'époque, ils avaient tous une caméra puisqu'ils étaient chargés de filature, donc ils se baladaient toujours avec un tas de matériel.
Mais on apprendra par la suite qu'au sein du GIP, de la flottille administrative, il y avait tout un service chargé d'espionner, de filmer, de photographier.
Absolument. Donc ils avaient le matériel, ils ont filmé. Jean-Pascal a été interrogé environ une heure. Puis ils amènent Jean-Pascal à l'extérieur du bâtiment. Ces deux types-là montent sur le toit.
Montent sur le toit donc
pour mieux voir, évidemment. Et là s'ensuit une discussion un peu agitée, un peu animée entre Jean-Pascal et les membres de ce groupe-là. Jean-Pascal est amené dans une baleinière.
Un bateau
Ouais, un petit bateau. Avec les dossiers.
Ça, il le voit aussi
de loin. Ça, il le voit, ouais. Et à ce moment-là, ces deux types-là sont repérés par des gars en bas.
Les types qui observent la scène sont repérés par d'autres membres de la flottille, du GIP.
Voilà, par des gars qui étaient en bas et qui faisaient tout ça.
Ah, qu'est-ce qui se passe là ? Ça se passe mal.
Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ça se passe très mal. Ils sont descendus violemment et ils sont virés de la flottille. Ils se font bastonner et ils se font virer. Ce témoignage-là, il me l'a raconté en 3 soirs, en gros. Et à chaque fois, le lendemain, quand je le revoyais, il me disait « J'ai encore été visité par des gars du GIP qui m'ont mis sous pression, qui m'ont menacé. » Et ce mec-là ne mentait pas parce qu'il tremblait. Il avait vraiment, on voyait bien à sa tête qu'il ne mentait pas. Et donc, moi, au bout de 3 soirs de témoignage, je vais voir le juge et je lui raconte l'histoire. Donc lui a été convoqué le lendemain, et là, évidemment, il a tout nié. Il a dit m'avoir raconté toute cette histoire, mais l'avoir inventée ou lue dans la presse. Ce qui n'est pas possible, parce que tous les détails qu'il m'avait donnés n'avaient jamais été écrits dans la presse.
À ce moment-là,
jamais.
Donc, ce témoin, finalement, devant le magistrat, dit qu'il a tout inventé, et donc ne dépose pas sur procès-verbal, ne confirme pas son témoignage. Or là, il y a quelques jours, il vient vous voir. Alors, et qu'est-ce qu'il vous dit ?
Il y a quelques jours, il vient me voir très très gêné et il me dit « Tu sais Olivier, excuse-moi pour la dernière fois avec le juge, excuse-moi. » Je dis « Mais tu sais, t'as ta conscience pour toi, si t'as quelque chose à dire ou à rajouter, il est toujours temps de le faire. » Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, les Polynésiens sont très croyants. Et donc, quand on cache quelque chose de cette importance, ça les travaille tout le temps. Et ils veulent surtout pas, ils ont peur de la mort, évidemment, et c'est vraiment une peur presque religieuse, on va dire. Mystique, quoi.
Mmh.
L'existence d'une éventuelle vidéo de l'enlèvement et de la mort de JPK plane sur le dossier judiciaire. Le 18 novembre 2005, un gendarme de la brigade de Paea déclare aux enquêteurs avoir recueilli deux témoignages concordants qu'il estime sérieux sur l'existence d'une vidéo qui montrerait la mort de JPK sur un bateau en pleine mer, entouré de membres du GIP, JPK des parpaings aux pieds, immergé à plusieurs reprises, agonisant, puis abandonné en pleine mer, après un appel téléphonique d'un homme du GIP passé depuis le bateau. Aucune vidéo n'a pour l'instant été retrouvée. Ces déclarations recoupent le témoignage de VTA Guillou, ancien membre de la cellule de renseignement du GIP, qui en octobre 2004 relance l'affaire JPK, 7 ans après la disparition du journaliste, sur fond de bras de fer politique entre Gaston Flos et son opposant indépendantiste Oscar Temaru.
Bon, où est-ce qu'on va ?
On traverse le parc.
Mais vous allez vous mouiller là.
Oh, ça va, c'est pas grave.
En général, quand il pleut comme ça, ça dure combien de temps ?
Oula, là on est parti pour la saison des pluies. Hein. Ça va jusqu'au mois de mars.
VTA Guillou, que nous avons rencontré, affirme avoir assisté à l'enlèvement de JPK, puis à une conversation d'hommes du GIP, Tino Mara et Tutu Manate, expliquant avoir coulé JPK au large après interrogatoire pour retrouver un dossier sur Gaston Flos. Le père de VTA, Sandy Guillou, a longtemps été le numéro 2 du GIP dirigé par Rere Puputoki, l'homme de confiance de Gaston Flos. Sandy Guillou raconte ce que lui a confié l'un des GIP désignés par son fils lors d'un accrochage verbal.
Alors, dans cet accrochage qui s'est passé dans mon bureau, il ajoute « De toute façon, rappelle-toi de ce qui est arrivé aux journalistes français qu'on a envoyé au large. » Alors je me dis, je le regarde, je dis « Le journaliste français, qui c'est ça ?» Après il me regarde et il me dit « Tu ne connais pas ?» Il me dit « Ben le journaliste là qu'on a envoyé au large et qu'on a c'est un accident. » Voilà qu'il me dit « C'est un accident, ça n'a pas été fait exprès. » Je dis « Alors là tu m'apprends quelque chose de nouveau. » J'ai dit, et il me regarde en ayant peur et il me dit, vraiment, tu n'es pas au courant? J'ai dit, non, je ne suis pas au courant. Il me dit, bon, écoute, je ne vais pas t'en dire plus. Quand Réré va revenir, pose-lui la question.
Vois avec Réré quand
Vois
il
avec
revient.
Réré.
Vois avec le patron.
Vois avec le patron.
À ce moment-là, ouais. Votre fils VTA n'a pas encore fait ses déclarations publiques.
N'avait pas encore fait ses déclarations publiques. Mais c'était déjà en 2004. Hein.
Vous en parlez directement avec Réré Puputoki?
Non, pas tout de suite. C'était assez grave. L'accusation était assez grave, que j'ai voulu le voir en privé plutôt. Hein. Et l'occasion s'en est présentée. Une fois, on a été au restaurant, et au restaurant, bon, on était seul. Et puis, dans le feu de l'action, en mangeant avec une bouteille de rouge et tout ça, je lui dis, bon, écoute, Réré, j'ai quelque chose quand même à te poser comme question. Et je lui pose la question qui...
La question qui fâche.
Oui, ouais, la question qui fâche. Et il s'est fâché. Et il m'a dit, ça ne te regarde pas, affaire classée.
Il n'a pas démenti.
Il n'a rien dit d'autre. C'est affaire classée. Ça ne te regarde pas. Point final.
Dire qui vous êtes, est-ce qu'on peut donner votre nom ou pas?
Je sais pas. Ça peut avoir des conséquences hein, pour moi.
On peut dire que vous êtes un responsable,
oui,
local,
oui.
Quelqu'un qui a des responsabilités dans la flottille.
Oui, bien sûr.
On va pas donner votre nom si vous voulez. Cet homme a été nommé à son poste après l'accession à la présidence d'Oscar Temaru. La scène qu'il raconte se passe quelques jours après son arrivée.
Le soir vers 18h, je m'en allais. J'ai été appelé à l'arrière des bâtiments, à la capitainerie. Et là, j'ai constaté que bon, ces personnes étaient là et étaient en train de boire un coup.
Prendre un verre.
Chez nous, on dit prendre une caisse. Parce qu'un verre, c'est bon.
Une caisse, on voit tout de suite.
Voilà, voilà, on termine la caisse. Quoi. Et à ce moment-là, mon toutou m'a un peu interpellé en disant, tu sais...
Toutou manaté. Hein.
Toutou manaté. Hein. Moi, je te dis, on est là, en face l'un de l'autre, les yeux dans les yeux, je te dis, je n'ai pas tué cette personne. Je ne connais pas cette personne. Je suis pas content avec tous les mensonges qu'ils ont racontés, mais...
Il parlait de JPK.
Il parlait de JPK. Il était tellement sincère, tu comprends, hein? Sincère, il n'y avait pas de malice dans ses yeux ou dans ses... Et il continue à me raconter. À cet instant-là, son frère rentre, hein? Le frère de Toutou Manaté. Et quand il entend Toutou dire ça, il se retourne vers moi et me dit « Ne le crois pas !» Mais en gueulant, tu vois. Pas en disant « Ne le crois pas, il raconte des conneries. » En gueulant, ne le crois pas. Tu sais, c'est lui qui a dit que JPK avait chié dans son front. Et pas qu'une seule fois, il répétait ça 3 fois, 4 fois en regardant son frère.
En criant dans la pièce.
Ah oui, en criant. Et
en prenant les autres personnes dans la pièce à témoin.
Ah, tout le monde était groggy parce qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il dise ça. Ça, c'est, je sais pas, c'est un coup de foudre qui te tombe sur la tête. Quoi. Ça nous a coupé le truc et puis il continue à ricaner, quoi.
Le frère de Toutou Manaté.
Le frère de Toutou, et pendant ce temps, Toutou ne se défendait pas. Il est resté...
Il ricanait, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faisait?
Il faisait « Ha 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 ha, prends-moi une haore. Alors, dis-moi que c'est pas vrai. »
Puis là, il y a un long silence, quand
même. Ah oui, oui, un silence. Tout le monde a reculé, un autre est parti dans un coin sans rien dire. Plus personne n'a parlé pendant 3-4 minutes.
Est-ce que par la suite, vous avez recroisé Toutou Manaté? Est-ce que vous avez reparlé de cet épisode absolument incroyable? Parce que lui, il s'est tué à ce moment-là, quand son frère l'a accusé, il n'a rien dit. Est-ce que vous lui en avez reparlé ensuite?
Non, pas cette fois-là.
Par la suite,
comme il y a eu un mouvement de grève très dur qui a été engagé par eux contre le ministère, à un moment donné, quand ils n'étaient pas contents, ils venaient me voir en bloc, hein, à 20, 30 ou 40 personnes dans mon bureau, en me disant, si c'est comme ça, on va tout casser, en menaçant, en disant, le président, on va aller chez lui, on va le tuer, on va casser sa baraque, on va tabasser ses enfants, mais des choses dures, tu vois.
Disait ça, on va le tuer, ah oui, on va le tabasser.
Ah oui, on va le tabasser, tapareil. Quand tu veux faire du mal à quelqu'un, tu dis tapareil. Tapareil, c'est tabasser, en fait, c'est tout, mais gravement, tu comprends?
À l'été 2006, lorsqu'il y a eu blocage du port avec la flottille, Toutou Manaté a frappé un responsable de l'équipement et il a d'ailleurs été condamné à 4 mois de prison avec sursis.
Oui, oui. Enfin, il a frappé un responsable. Il a frappé le directeur de l'équipement. C'est pas n'importe qui. Et franchement, 4 mois quand on voit ça.
Avec sursis.
Avec sursis. Non, mais c'est vraiment se moquer des gens.
Et donc, quand il débarque dans votre bureau avec d'autres membres du GIP, profère des menaces contre le président.
Ben, bien sûr, bien sûr.
Et à ce moment-là, vous, qu'est-ce que vous vous dites?
À ce moment-là, je arrête et je lui dis, mais c'est bizarre. Tu te rappelles la soirée où tu m'as dit que tu n'avais pas assassiné JPK? Je t'ai cru. Je t'ai cru sincère. Aujourd'hui, tu viens dans mon bureau pour menacer de faire ça à Oscar et au ministre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, je suis plus sûr de te croire. Moi, j'ai l'impression que tu as fait quelque chose contre le JPK. C'est pas possible.
Et là, qu'est-ce qu'il vous a répondu?
Il m'a rien dit.
Ça reste un petit secret entre membres du GIP, vous pensez, cette affaire JPK?
Peut-être, oui. Peut-être. Il y a des... Comme on dit, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. On a peur de peut-être de suivre le même chemin. Ou, tu comprends?
Que JPK?
Bah oui. Il y en a beaucoup, j'ai dû me poser des questions. Dit, ah non, chef, ils viennent chez toi le soir. Ah oui, moi, ils m'ont suivi jusque chez moi, j'ai des enfants. Attention.
Ah, il y a peut-être des gens qui pourraient dire des choses, mais qui ont peur.
Bien sûr, mais il y a beaucoup. Et ce n'est pas des petites gens.
Cet homme a témoigné sur procès-verbal le 5 février 2007. Toutes ces accusations sont réfutées par l'avocat de Toutou Manaté et Tino Mara, les membres du GIP mis en cause, François Quinquis, également avocat de Gaston Floss.
C'est absolument pas crédible. Vous savez, il faut habiter Tahiti pour savoir combien Radio Cocotier à une puissance extrême, combien certaines personnes ont une capacité de nuisance à colporter de fausses rumeurs. Et donc, lorsque on habite Tahiti, qu'on est installé depuis un certain temps, on sait faire la part des choses. Et je comprends très bien que vous-même, qui nous faites le plaisir de votre visite, vous pouvez ne pas comprendre ce petit jeu qui est un sport local et qui s'appelle la délation du petit copain. Et ce, à des fins purement politiques, c'est-à-dire tout mettre en œuvre pour, excusez-moi l'expression, casser du floss.
Malgré de nombreux éléments remettant en cause la thèse du suicide, ainsi que le comportement étrange de l'épouse de JPK et de son amant dans la nuit de la disparition, le parquet a finalement rendu un réquisitoire de non-lieu. Or, il y a 3 semaines, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete a dessaisi le magistrat qui instruisait cette affaire. Un nouveau juge, Jean-François Redonné, va donc maintenant reprendre le dossier. Un dossier où le climat de peur est omniprésent. Éric Monod est journaliste à l'AFP, installé en Polynésie depuis 40 ans. Il a travaillé 20 ans à RFO et réalisé notamment un reportage fin 2004 mettant en cause le GIP dans l'affaire JPK. Le lendemain de la diffusion, il est agressé sur sa terrasse.
Je rentrais d'un repas, il était donc assez tard, 11h du soir, mon épouse est allée dans la chambre, je suis venu dans le bureau où j'avais mon ordinateur pour vérifier mes messages, et en arrivant à l'endroit où vous tenez, j'ai reçu 2 violents coups de poing dans les yeux. J'ai vu 2 silhouettes qui partaient en courant et qui tournaient le coin de la maison. En fait, les auteurs des coups de poing étaient 2 membres du GIP qui venaient pour fouiller dans mes affaires, fouiller dans mon bureau, et que nous avons surpris en arrivant. Quoi.
Pour vous, cette agression est une conséquence de la diffusion de votre reportage sur l'affaire JPK ?
Absolument.
Là, c'est votre bureau, là ? C'est
mon bureau. Quand je vous parle là, je ne suis pas du tout sûr de ce qui va m'arriver ensuite. Vous voulez voir ce que j'ai sous mon édredon ?
Oui.
Bon,
je vais venir.
Il se remet à pleuvoir là. C'est quoi ?
Regardez.
C'est un pistolet.
Oui, un pistolet, un 22 long rifle.
Vous avez un 22 long rifle sous votre oreiller.
Oui. Je ne pensais pas que... Quel poids je pèse face à ces hommes du GIP.
Donc c'est la saison des pluies là à Tahiti, hein, comme dans tous les pays tropicaux. C'est une très bonne chose pour nous. Enfin, tout le monde accueille la pluie avec bonheur. Hein.
Dominique Morvan a travaillé avec JPK. Pour elle, il se sentait sous surveillance.
Et surtout, il avait l'impression d'être en permanence suivi et même menacé. Ça, c'est une des dernières choses qu'il m'ait raconté. C'est qu'en revenant en moto un soir du travail, une voiture avait essayé, mais très nettement, de le mettre dans le ravin.
Le jeter dans le fossé.
De le jeter dans le fossé. Donc là, il ne peut pas avoir menti. Il avait vraiment l'impression que c'était volontaire. Cet accident-là était provoqué.
Une surveillance de JPK confirmée sur procès-verbal le 7 avril 2006 par Sean Whitman, un membre des services de renseignement de Gaston Floss. Cet homme affirme avoir participé à la filature de JPK qui aurait débuté selon lui 1 mois et demi avant sa disparition. Une filature avec parfois, dit-il, une caméra, le tout sous la houlette d'un ancien membre de la DGSE recruté par Gaston Floss. Par ailleurs, une perquisition au siège du parti de Gaston Floss a permis de découvrir un document du service d'espionnage de la présidence faisant une enquête sur l'enquête dans l'affaire JPK, document adressé à Gaston Floss 2 mois à peine après la disparition du journaliste. Les enquêteurs saisissent également une lettre non transmise jusque-là à la justice où un membre du GIP informe Gaston Floss avoir entendu des collègues à lui parler de meurtre de JPK.
peux me présenter rapidement. J'étais l'avocat de JPK jusqu'à sa disparition. Alors, mon nom c'est Desarcis, enfin, je pense que sur le territoire, j'ai été connu à l'époque comme étant un très proche de JPK. On savait très bien que JPK, comme moi-même, nous faisions tout pour trouver des preuves de corruption contre Gaston Flos. Aujourd'hui, je suis convaincu que sa fin n'est pas le résultat d'un acte volontaire de sa part. Il ne s'est pas suicidé, hein. C'est clair et net.
Alors, si ça n'est pas un suicide, et que donc ça serait un crime ou un assassinat, reste la question du mobile. Jean-Dominique Desarcis, quels étaient les dossiers dont pouvait avoir connaissance JPK avant sa mort et qui auraient pu inquiéter certaines personnes au point de vouloir l'éliminer ou le faire taire?
Les dossiers, à l'époque, bon, j'étais l'avocat de JPK et je suis tenu par un certain devoir de réserve.
Et quels sont les dossiers qui auraient pu être quand même à ce point dangereux au point de vouloir éliminer quelqu'un?
À l'époque, il y avait des versements qui étaient possibles au profit de Jacques Chirac, qu'on a évoqué, qui était fait par quelqu'un qui aurait été fait par un homme d'affaires de Polynésie.
Un perléculteur.
Oui, il était perléculteur, et donc effectivement, on avait des raisons, et peut-être elles n'ont jamais été vérifiées, qui avaient ces versements, puisqu'on ne les a jamais vus.
C'est-à-dire, il y avait une note qui circulait à l'époque à Papeete.
Il y avait une note qui circulait là-dessus, et qui identifiait certaines personnes qui avaient été témoins de certaines choses.
Donc en gros, pour qu'on comprenne le schéma, donc en gros, cette note qui circulait et dont aurait pu avoir connaissance JPK faisait état de versement d'un paléculteur.
Oui, exactement.
Sur un compte au Japon au nom de Jacques Chirac.
Mais pas forcément au Japon. Nous, on ne savait pas. On savait qu'il y avait eu des comptes. Bon, le témoin disait qu'il y avait eu des versements, qu'il avait été amené à brûler des documents, toute une série de documents, faisant état de versements à Jacques Chirac.
Le Japon était évoqué quand même.
À travers les perles, oui. Oui, c'était les perles qui étaient en cause. Et ça, c'est certain.
C'était un dossier sensible.
C'était un dossier sensible. Je dois dire que il y avait d'autres choses. Il y avait le financement de la campagne de Jacques Chirac. Il y avait ces choses-là, effectivement. On parlait de certaines sommes très importantes qui auraient basculé vers Jacques Chirac pour le financement de sa campagne.
À travers des comptes
À travers des fonds européens qui auraient été détournés de leur finalité. Bon, c'était un exemple.
Mais qui serait aussi passé par la Polynésie, par quel biais?
Qui serait arrivé en Polynésie, qui serait reparti. Voilà. Vers Jacques Chirac, hein, ou j'en sais rien, hein, mais ils auraient servi à la campagne. Alors que ce soit versé sur un compte au nom de Jacques Chirac ou de ses proches ou un compte X ou Y, ça on n'en sait rien. Hein, mais il peut y avoir eu des porte-valises aussi dans cette affaire. Hein. Donc ça, c'est des choses qui nous intéressaient, comme il y avait une affaire de trafic d'armes, je me souviens très bien. On avait évoqué cette... Et c'est vrai qu'il était sur cette piste sur laquelle... il était très discret, mais qui aurait pu concerner un certain nombre de personnes.
Hein. Alors, ces dossiers sensibles, et notamment ces dossiers qui concernaient d'éventuels circuits financiers impliquant Jacques Chirac, JPK en avait connaissance à l'époque.
Oui, il en avait connaissance. On ne savait qu'il y avait des liens étroits entre Jacques Chirac et Gaston Flos. On savait qu'il y avait des liens financiers. On avait certaines connexions.
Vers le Japon, qui
avait une cause japonaise, disons, qui pouvait avoir des impacts japonais, parce que, bon, si c'était des perles, les perles sont achetées par des Japonais, et ça fait des fonds qui sont, au lieu d'être versés pour les achats de ces perles ici, sont versés au Japon. C'est possible. La seule certitude que nous avions, c'est qu'il y avait des connexions financières qui avaient pour base une activité intéressante des Japonais. Voilà.
Alors, à cette époque, donc là nous sommes fin 96, oui. Début 97, à cette époque-là, vous devez avoir tellement conscience qu'il s'agit d'informations sensibles que peu de temps après, vous allez être cambriolé.
Oui, j'étais cambriolé en juin 96.
On vous a pris le disque dur de votre ordinateur.
On a pris 60 kilos de documents, on le sait, parce qu'on a les traces de fret. Et le disque dur, on l'a retrouvé à la présidence.
À la présidence de la Polynésie.
À la Polynésie.
Avec Gaston Flosse,
à l'époque. Avec Gaston Flosse, à l'époque. Donc là-dedans était impliqué quand même le directeur de cabinet, le chef de cabinet, une barbouze locale.
Donc, le disque dur de votre ordinateur qu'on a cambriolé, on le retrouve à la présidence de la Polynésie.
Avec tout effacé. Mais c'était mon disque dur, puisque ça, on a, le technicien a pu l'identifier parfaitement.
Quelle conclusion vous en tirez?
Que, à l'époque, on était à l'époque des coups tordus, déjà. Bon. J'ai eu des menaces téléphoniques et de gens qui sont venus me voir et qui m'ont transmis ces messages.
Sur le thème, si tu parles...
Voilà, exactement. C'était grosso modo, si tu vas à Paris, tu ferais mieux d'y rester, par exemple. Hein, c'était le genre de menace. Bon, au téléphone, j'ai eu des menaces de mort. Si bien qu'il y a un moment où j'étais sous la pression et on est venu me voir et on m'a dit... on n'est pas venu me voir, c'est moi qui étais voir quelqu'un que je connaissais. Et je lui ai dit, fais savoir de l'autre côté que si on me talonne de trop près, je suis prêt à révéler des informations.
Certains dossiers.
Certains dossiers, voilà. Donc là,
qu'on a évoqué tout à l'heure, par exemple.
Voilà, qu'on a évoqué. Donc j'ai eu des réactions qui m'ont montré que j'étais en terrain dangereux.
C'est la première fois que Jean-Dominique Desarcis s'exprime publiquement sur le dossier JPK. Et il va aujourd'hui beaucoup plus loin que lors de sa déposition sur procès-verbal le 19 juin 2007. Concernant le dossier de trafic d'armes, JPK disposait dès juillet 91 d'un rapport des renseignements généraux sur Gaston Flosse et des fabricants d'armes coréens. De bonnes sources locales expliquent également que les services de renseignement en métropole s'inquiétaient d'un éventuel armement du service d'ordre du président Flosse. Concernant le dossier japonais, une enquête lancée en 99 par le parquet de Paris sur le patrimoine de Gaston Flosse amène les enquêteurs de la brigade financière à s'intéresser de très près à un scandale immobilier où l'on retrouve le fils de Gaston Flosse, Réginald, et où il est question d'un prêt de 360 millions de francs pacifiques, plus de 3 millions d'euros, qui aurait été reversé en grande partie sur un compte japonais, et cela 2 mois avant la présidentielle de 2002. Ces révélations ont été faites à l'époque par Alex Duprel, rédacteur en chef de Tahiti Pacific Magazine, installé au cœur de la végétation luxuriante de l'île de Moréa. Il dirige l'un des journaux les plus respectés et les mieux informés en Polynésie française.
Donc là, nous venons de monter dans un ferry, le Moréa Ferry Express, sur le port de Papeete, qui va nous emmener sur l'île de Moréa. Donc la traversée doit durer normalement à peu près 1 heure.
Lors de l'enquête sur le patrimoine de Gaston, ils sont allés dans cette affaire. Ouais. Et un jour, je suis au bureau, je suis au palais de justice de Papeete où j'ai fait mon dépôt légal à chaque fois que le journal sort. Et il y a une porte ouverte et il y a un magistrat qui me dit « Ah, monsieur, entrez », et on ferme la porte. Et il m'explique qu'ils avaient fait l'enquête sur... que l'enquête était en cours sur le patrimoine, et on s'était renseigné sur cet emprunt de 360 millions, les trucs. Et ils ont découvert que sur les 360 millions, il y a 300 millions environ qui avaient été virés vers un compte au Japon.
Un compte japonais.
Un compte japonais.
C'est-à-dire que déjà apparaissait une histoire de compte japonais voilà. En liaison avec un membre de la famille Flosse. Là, c'était pas le père, c'était le fils.
Voilà, c'est ça. Le fils n'a jamais vraiment rien fait. Il a toujours été un peu l'homme de paille de son père. Alors j'ai dit, bon, alors que vous avez trouvé quoi en Japon? Il dit, bon, on est obligé de demander à Paris pour passer la voie diplomatique pour voir où cet argent est allé. Et on a eu le message, arrêtez tout, bloquez, ne suivez pas cette piste parce que vous touchez au sommet de l'État.
Le message était, arrêtez les investigations sur ce compte.
Voilà. Lorsque j'avais publié l'information, il n'y avait aucun démenti. Ce qu'ils font généralement, parce qu'ils veulent que ça se tasse, bon, c'est quelques lignes dans une phrase, autre chose. Et c'est pour ça, moi, j'ai sursauté lorsque j'ai lu le rapport Rondo, qui est sorti à Paris, les indiscrétions du rapport Rondo.
Alors, le rapport Rondo, ce sont des pièces qui ont été saisies par les magistrats en charge de l'affaire Clearstream, qui ont saisi dans l'ordinateur du général Rondo et dans des documents... que lui a écrit des références à une enquête de la DGSE menée dans les années 90 qui parlait d'un éventuel compte japonais de Jacques Chirac sur lequel aurait transité 300 millions.
Voilà, c'est ça. Et donc, s'il y avait ce compte, il devait être alimenté quelque part. Et ça se recoupait avec l'information que j'avais eue localement au palais de justice de Papeete.
Alors là, nous arrivons au siège du Tawera, le parti de Gaston Flosse. Gaston Flosse qui va tenir une conférence de presse d'ici une dizaine de minutes pour faire le point sur la situation politique. Une salle entièrement blanche avec des photos tout autour de la pièce. Plusieurs photos de Jacques Chirac qui ornent les murs blancs de cette pièce. Il y a un portrait de Nicolas Sarkozy aussi, et du président de la République, mais en plus petit, beaucoup plus petit. Monsieur Flosse ?
Oui.
Bonjour, Benoît Colombin.
Bon, Radio France Inter.
Vous avez encore deux minutes ?
Oui, tout à fait.
Question d'actualité. Alors, 10 ans après la disparition de Jean-Pascal Courault et 3 ans après un dépôt de plainte pour assassinat, quel est... votre opinion sur le dossier JPK?
Bon, écoutez, vous me faites rire, vous me voyez avoir assassiné ou commandité l'assassinat de Jean-Pascal Courault. Tout cela, ce sont des armes de nos adversaires, comme les détournements de fonds publics, etc. Où en sommes-nous? Ils ont monté tout un scénario. Et aujourd'hui, il n'y a pas de preuves.
Des proches de la famille Courault expliquent que pour eux, un des mobiles possibles de la disparition et de la mort de Jean-Pascal Courault, ça serait qu'il aurait détenu des dossiers compromettants pour vous. Qu'est-ce que vous leur dites?
Mais pourquoi est-ce qu'il n'étale pas ces dossiers? Vous comprenez? S'il y avait vraiment des dossiers compromettants contre Gaston Flosse, mais à rentant qu'ils auraient étalé sur la place publique, pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Parce qu'ils ont menti jusqu'à présent. Et encore une fois, je vous le dis, après ces fameux comptes que j'aurais eu au Japon, ce qui est absolument faux, je n'ai aucun centime, aucun yen au Japon ni ailleurs. Non, ce sont des menteurs, des manipulateurs de l'opinion, et j'espère que la justice un jour dira, eh bien écoutez, ça suffit comme ça, on va clore le dossier.
On entend dire parfois que le système Flosse, c'est un décalque du système de la mairie de Paris dans les années 70-80.
Oui, alors il faut comprendre le contexte. Ce qui s'est passé, c'est qu'au début des années 90, vous vous rappelez, en France, vous avez eu la révolte des juges.
Alex Duprel, de Tahiti Pacific Magazine.
Où les juges ne voulaient plus être sous le contrôle du politique. Et il y a une sorte de rébellion, on dit, maintenant, ils vont vraiment regarder, et, etc. Ce qui fait que on a déplacé le financement des partis, le financement occulte des partis, a été déplacé de la France vers l'outre-mer, et surtout vers le Pacifique, c'est-à-dire Nouméa et Tahiti. Et rappelez-vous, à l'époque, sous Chirac, il avait dit que la Polynésie et Nouméa étaient du domaine réservé du président. Alors, il suffisait de nommer le chef du parquet, le procureur général ou procureur de la République, quelque chose qui obéisse bien aux ordres. Et finalement, on a même eu un procureur ici qui est arrivé et qui a dit au chef de la gendarmerie, devant témoin, qui a dit au premier président du tribunal de Papeete, moi on m'a nommé ici pour que rien arrive à Gaston et rien ne lui arrivera.
Rien n'arrive à Gaston, Floss.
Floss. Et rien ne lui arrivera. D'ailleurs, l'affaire JPK, c'est tellement évident qu'à chaque fois que quelqu'un venait pour apporter un témoignage, il a été ou bien menacé, ou on lui a fait peur. Lorsque le juge d'instruction place des écoutes, les personnes mises sur écoute sont prévenues par quelqu'un à l'intérieur du parquet.
Qui prévient ces personnes qu'elles vont être mises sous écoute?
Absolument, oui. D'ailleurs, il y a eu plusieurs articles publiés dans la presse locale à ce sujet, et ça n'a jamais été démenti d'ailleurs.
Donc évidemment, à partir de ce moment-là, bah, les personnes sont prévenues et elles ne parlent
voilà,
plus au téléphone.
C'est-à-dire il y a eu un sabotage permanent. C'est-à-dire que la justice est instrumentalisée pour protéger un homme et protéger son système. Et la seule manière que je vois, moi, que cela peut arriver, c'est que si les ordres viennent tout à fait d'en haut, que c'est pour une soi-disant raison d'État.
Après 3 ans d'enquête, la désignation d'un nouveau juge redonne espoir à la famille de Jean-Pascal Courreau. Autre rebondissement, la chambre d'instruction de Papeete a accepté que les pièces saisies chez le général Rondeau dans l'affaire Clearstream soient versées au dossier JPK, et notamment les documents sur de présumés transferts financiers entre la Polynésie et un compte japonais. Des requins en eau trouble, c'était une enquête de Benoît Colomba, prise de son Alain Fauché, réalisation Anne Lioro, assistée d'Agnès Le Bot, mixage Philippe Carminati. Interception vous est proposée chaque dimanche par Angélique Boin et Valérie Cantier. Si vous voulez en savoir plus sur cette étonnante affaire, rendez-vous sur franceinter.com, rubrique émission Interception. Vous trouverez d'autres informations sur JPK, ainsi que l'émission que vous pouvez réécouter. Dimanche prochain, un reportage sur la folie des mangas au Japon. Tout de suite après le journal, vous avez rendez-vous avec Philippe Meyer. Excellente semaine à vous.